lecture du psaume 110. Nous avons été occupés hier soir par la grâce de Dieu et le secours de son esprit de celui qui est présentement dans le ciel, glorifié. Nous l'avons vu dans ces cieux ouverts que nous ont présenté les différentes portions de l'Épître aux Hébreux qui ont été considérées. Les cieux ouverts et la foi y pénétrant. Et les yeux des croyants détournés des choses de la terre pour regarder effectivement en haut dans les cieux qui sont ouverts. C'est une des caractéristiques, c'est la caractéristique essentielle des temps auxquels nous appartenons, la période, la dispensation, si l'on veut, à laquelle nous appartenons, c'est-à-dire celle du christianisme. Un homme glorifié à la droite de Dieu. Un homme qui est le Fils de Dieu, qui est le Messie, le Fils de David. Un homme qui est le Fils de l'homme reconnu par Dieu comme l'héritier de toutes choses, à plus d'un titre, et que Dieu a fait asseoir à sa droite. C'est ce que nous présente ici ce premier verset. Le premier verset du psaume que nous avons ici. Et c'est la période présente. Et c'est celui qui est le Messie, qui est le roi, et qui est caché dans le ciel, de sorte que le royaume qui ne s'est pas établi sur la terre prend le caractère de royaume des cieux. Et c'est la période où celui qui est venu dans le monde, lui, la lumière est dans le monde, n'a pas voulu, qu'il n'a pas connu, qu'il a rejeté, n'a pris auprès de son Père. Là où il se trouvait éternellement, dans la gloire où il était avant que le monde fût, la place que nous avons ici, à la droite de Dieu. C'est le Fils de Dieu venu sur cette terre et prenant place comme homme glorifié dans le ciel. C'est quelque chose d'infini. C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous a développé d'une manière particulière. Tout est suspendu, on peut dire, dans ce que nous présente cet épître, à ce grand fait que Dieu a dit, l'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. C'est la période qui constitue une parenthèse dans les grandes voies de Dieu à l'égard de son peuple terrestre et de la terre, on peut dire. La période pendant laquelle Dieu, l'Esprit de Dieu, travaille pour former sur cette terre l'épouse de celui qui est glorifié dans le ciel, l'Église, qui est appelé pour une vocation céleste, qui n'est pas moralement de la terre, mais du ciel. Cette parenthèse, elle a commencé par lorsque Jésus est monté au ciel après sa résurrection. L'ascension du Seigneur Jésus, son ascension glorieuse, son exaltation dans la gloire, et ensuite alors en est résulté le don du Saint-Esprit, les dons de grâce de Christ envers, à l'égard de son assemblée, et tout le déploiement des opérations de l'Esprit de Dieu ici-bas pour la formation de cette Église et dans l'Assemblée, étrangère au milieu de ce monde. C'est la part de tout croyant, c'est la part de l'ensemble, la part, notre part commune comme assemblée, d'être associée à un Christ céleste, caché à ce monde. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour marche-pied de tes pieds. Les ennemis sont encore là, ils sont dans ce monde, ils se manifestent et ils se manifesteront encore et de plus en plus. Ils ne sont pas encore mis sous tes pieds. Christ est caché en Dieu, et notre vie est cachée avec lui en Dieu. C'est le temps où le peuple terrestre, à cause de son infidélité, qui l'a conduit à mettre à mort le Messie qui venait vers lui en grâce, et temporairement rejeté. Tout cela est d'une extrême importance. Nous avons à comprendre quelle est notre position au milieu de ce monde vis-à-vis de Christ glorifié, mais ne pas perdre de vue, ô bien chers frères et sœurs, enfants de Dieu, et que nous sommes associés à une telle personne. Une telle personne glorifiée dans le ciel. Il a ressuscité d'entre les morts, il lui a donné la gloire. Et il a fait asseoir à sa droite. Quel objet est pour nos âmes, objet de contemplation, objet de méditation, objet d'attente aussi, objet d'espérance, parce que ce temps aura bientôt sa fin. Cette parenthèse va se fermer. Et alors, celui qui est maintenant à la droite de Dieu reprendra, ou plutôt prendra en main, les destinées de ce monde, selon les déclarations prophétiques de la parole. La domination lui sera donnée, le livre sera entre les mains de l'agneau et les sceaux seront ouverts, les prophéties de l'Ancien Testament s'accompliront, les relations avec le peuple terrestre reprendront pour aboutir, tout cela pour aboutir à l'établissement d'un règne où tout sera à la gloire de Dieu. Le roi sera manifesté, la volonté de Dieu sera obéie, et parce que c'est ce roi qui la fera respecter, tout lui sera soumis, il y aura le jugement, la destruction des ennemis. Il y aura la formation progressive au milieu tout le travail de Satan déchaîné sur la terre, plus que jamais après l'enlèvement d'Église. Satan lui-même étant précipité du ciel sur la terre, il y aura au milieu des circonstances les plus éprouvantes qui aient jamais été pour les fidèles, la formation, l'épuration, la tribulation terrible de fidèles d'un caractère nouveau, plutôt se reliant aux fidèles de l'Ancien Testament, à ce résidu que Dieu a toujours reconnu au milieu d'un peuple qui se détournait de lui, d'un peuple rebelle. Et ce résidu de la fin aura terriblement, je le répète, à souffrir de la part, et non seulement des ennemis extérieurs de la nation, mais de la nation elle-même, de cette nation juive, nation d'Israël, rentrée dans son pays, mais pour y déployer l'incrédulité la plus grande, même si des aspects religieux s'y trouvent conservés. Mais c'est au milieu d'une masse apostate, ennemie en réalité de Dieu, que ce résidu sera peu à peu amené à ouvrir les yeux sur les causes d'un tel état de choses, de toutes les épreuves qui ont surgi, qui surgiront encore pour lui, tout ce qui est arrivé à ce peuple terrestre. Et ce résidu ouvrira les yeux pour comprendre que le grand péché a été la réjection et la mise à mort du Messie, mais ils seront prêts à recevoir celui qu'ils ont percé, et celui-ci enfin viendra. Il ne s'agit pas de développer ici les événements prophétiques, mais de bien rappeler à nos âmes que le moment viendra où celui qui est maintenant caché en Dieu, caché dans le ciel, apparaîtra victorieux, puissant, pour tirer vengeance des ennemis et pour délivrer son peuple. Et c'est ce que nous trouvons dans les versets qui suivent, au verset 2 à 4, nous l'avons, cette personne qui est maintenant la personne cachée dans le ciel, déjà couronnée de gloire, et nous l'avons, sinon sur la terre, en tout cas en rapport étroit avec la terre, et comme s'il était effectivement ici-bas, et il y sera, à certains égards, mais s'occupant du jugement des ennemis, s'occupant de la restauration de la nation, nation d'Israël, d'une manière entièrement nouvelle, et accomplissant tout cela à la gloire de Dieu. Les versets 2 à 4 nous le présentent comme déjà sur le point commencer d'ouvrir ce grand règne, ce royaume de Dieu sur la terre, qui sera établi non point, comme certains le pensent, par la prédication de l'Évangile à laquelle tous les hommes se rallieraient, mais par la purification de la terre par le jugement, la purification des fidèles par la tribulation, par les épreuves les plus grandes qui aient jamais été subies par des fidèles sur la terre, mais par la proclamation de celui que Dieu a dès longtemps, et par décret, et par serment, par déclaration solennelle, présentée prophétiquement et de différentes manières dans l'Ancien Testament, annoncée comme étant à la fois roi et sacrificateur. Nous l'avons là dans ces versets, ayant déjà accompli des actes de puissance, et déjà délivré son peuple, et déjà établissant en Sion sa domination. Et l'esprit prophétique vient dire ici: l'Éternel enverra de Sion la verge de ta force, domine au milieu de tes ennemis. Le siège est là, le siège de la puissance, non pas établi par les hommes, mais établi par Dieu, là où, dès longtemps, l'Éternel a mis son nom, le Seigneur a mis son nom. Cette ville dont le nom revient si souvent de nos jours, nous ne sommes pas encore à l'accomplissement de ce qui est présenté ici. Nous ne savons pas quel intervalle peut nous séparer encore de ce moment-là. Mais ici, le Seigneur est vu, Seigneur Jésus, le Christ, le Messie, est vu là en Sion. C'est de là que la domination sur d'abord tout le territoire du pays qui est le pays de beauté, le pays cher au cœur de Dieu, le pays qui était le pays de la promesse. D'abord la domination sera étendue là sans réserve, et puis de là elle s'étendra sur toutes les nations voisines et puis sur toute la terre. C'est une domination éternelle et universelle et qui sera entre les mains de Jésus et sa verge envoyée par l'Éternel lui-même, la verge symbole du pouvoir effectif, du pouvoir exécutant la volonté et de celui qui tient cette verge, sera cette domination partira de Sion et elle procède de Dieu lui-même. Domine au milieu de tes ennemis, ces ennemis que nous trouverions décrits d'une manière si saisissante et si effrayante dans le psaume précédent, dans le psaume 109, ou sous la domination de celui qui sera en réalité l'antichrist, celui qui est appelé le méchant. Tout un ensemble d'ennemis viennent persécuter les fidèles et celui qui parle au nom de tous, celui qui en réalité est l'objet de l'inimitié, Jésus lui-même persécuté dans les siens de ce temps-là, comme il a été persécuté au temps de l'Église, alors que lui était dans le ciel, persécuté sur la terre dans la personne des membres de l'Église, de ceux qui étaient les siens. C'est toujours la même pensée. Domine au milieu de tes ennemis. N'est-il pas précieux pour nos âmes, de penser que celui que le monde a rejeté un jour dominera. Le décret a été pris dès longtemps. Nous n'avons qu'à lire le psaume 2. Je raconterai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai aujourd'hui engendré. Demande-moi et je te donnerai pour ta possession les nations pour héritage et pour ta possession les bouts de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme un vase de potier, tu les mettras en pièces. Est-ce qu'il n'est pas réconfortant pour nous de penser que si faible, si méconnu de ce monde, les croyants, ceux qui appartiennent à Christ, régneront un jour avec lui. Ils sont, comme aimait à leur dire un cher frère que nous avons bien connu, beaucoup d'entre nous, nous sommes du côté du plus fort, quels que soient les progrès du mal, quels que soient les efforts de Satan, quels que soient les formes que prend l'inimitié contre Dieu dans ce monde, Christ l'emportera. Christ recevra la domination. Et si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Voilà l'affirmation très simple, mais décisive, de la parole de Dieu pour les croyants de l'époque actuelle, et c'est la même pensée qui pourra et qui remplira peu à peu le cœur du résidu futur sur la terre, souffrant, méprisé, ayant affaire à tous ses ennemis. Il attendra la délivrance de celui qu'ils apprendront à attendre peu à peu, et ils apprendront peu à peu que celui qu'ils attendent, c'est celui qui autrefois a souffert. Et celui qui a été pendant si longtemps caché aux yeux de la terre. Il est bon que nous pensions à ces choses, n'est-ce pas propre à et nous faire réaliser notre position présente comme à nous faire désirer la gloire de Christ dans ces moments, dans ces temps qui luiront bientôt, quoi qu'il en soit, dont nous avons ici le début. L'aurore, l'aube, il est parlé de l'aurore, car immédiatement après avoir dit « domine au milieu de tes ennemis », il est parlé du peuple nouveau qui sera sur la terre. Et il est parlé de ce peuple qui sera un peuple de franche volonté, au jour de ta puissance, en sainte magnificence, du sein de l'aurore te viendra la rosée de ta jeunesse. Dans un psaume précédent, un psaume 108, il est question de l'âme qui s'éveille dans la louange à l'aube du jour. Éveillez-vous, luth et harpe, je m'éveillerai à l'aube du jour. Il y aura l'aube du jour, après tant de ténèbres, après une nuit couvrant la terre depuis si longtemps et qui ira s'épaississant encore. Oh, lorsque l'Église aura été enlevée et que Satan se déchaînera sur la terre, quelle nuit terrible! Mais du côté de ce qui aura été la chrétienté et l'Église, et ce qui a porté le nom d'Église chrétienne ici-bas, l'apostasie totale. Du côté de ce qui se présentera encore un temps comme le culte selon la loi, le culte juif. L'apostasie totale et l'antichrist mettant la main sur ce peuple apostat. Quelles terribles ténèbres morales couvriront ce monde. Mais voici que le jour se lèvera. Le jour du Seigneur se lèvera dans de terribles jugements pour le monde, mais ce sera, si c'est le jour brûlant comme un four pour les ennemis, comme le dit le prophète Malachi, c'est le soleil de justice qui apparaîtra pour ceux dont les yeux seront tournés en haut pour attendre celui qui viendra. Le soleil de justice et la santé sera dans ses rayons, sera dans ses ailes. Cela aussi, nous devons aimer à y penser. La bénédiction s'établissant enfin dans le monde. Et alors, ceux qui en jouiront sur la terre, bénédiction terrestre sans doute, mais liés à la personne bénie qu'ils apprendront à connaître et des bienfaits de laquelle ils jouiront, c'est un peuple nouveau. Ah, le peuple d'Israël a perdu tout droit à être appelé tel. Et pour la masse, pour cette nation comme telle, où le rejet est total et définitif, mais un peuple nouveau naîtra du sein de l'aurore, au moment où se lèvera le soleil de justice, il sera manifesté que des croyants sont là, des persécutés, des faibles, des objets de tant d'inimitié en but à tant d'ennemis, mais la rosée de ta jeunesse, le peuple sur lequel le Messie règnera, celui qui accueillera avec des acclamations la pierre de fête, celui qui dira « Béni, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Ne sera-ce pas un beau jour? C'est ce que nous chantons dans un cantique, n'est-ce pas? Notre cantique entre 93, quand disons « Seigneur, quand sera-ce, quand ces temps heureux, où il y aura ta face, comblerons nos voeux. Tout mon cœur s'enflamme lorsque je te vois, des yeux de mon âme, ô grand roi des rois, régner en puissance sur tout l'univers et par ta présence briser tous les fers. » C'est exactement notre psaume, enfin les versets de 4 dans ce psaume, verset 3. Il y aura un peuple nouveau, un peuple de croyants, un peuple de rachetés qui sera le noyau de toute la bénédiction autour de lui, au jour de ta puissance, en sainte magnificence. Et sur cette terre purifiée par le jugement qui tombera sur les ennemis, ceci étant mis sous les pieds du vainqueur, alors se dressera cette domination que jamais la terre n'a connue, et pourtant après laquelle la création tout entière soupire et est en travail. Ce que l'humanité chercherait à établir par ses propres moyens, la justice et la paix, la bonté et la vérité se rencontrant, la justice et la paix s'entrebaisant, c'est ce qu'on verra enfin alors, sous la domination de ce que les hommes appelleraient un potentat, un souverain, un dictateur, mais un dictateur bienfaisant, ou infiniment plus que cela. Infiniment plus que cela est le souverain débonnaire et juste à la fois. Et celui qui pètera les nations avec une verge de fer, mais l'agneau qui pètera doucement ses brebis et qui conduira son troupeau aux sources vives, aux sources de la grâce. L'agneau les pètera. Celui à l'égard duquel, dès maintenant, nous pouvons lire les déclarations de Dieu que Dieu a faites. Tu es l'Éternel à jurer, mais il ne se repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Cela, nous le savons, nous, chrétiens, cela, nous le voyons, et nous voyons ce sacrificateur et ce roi, car Melchisédek réunit et la royauté et la sacrificature, roi de justice et de paix, et le sacrificateur du Dieu Très-Haut, ce Melchisédek, mais c'est celui qui est notre souverain sacrificateur dans le ciel. Les cieux sont ouverts pour que ceux qui y pénètrent par la foi. Maintenant, est affaire à une telle personne. Mais il n'exerce pas encore ni sa royauté, ni sa sacrificature royale, ni la sacrificature selon l'ordre Melchisédek. Il l'exercera plus tard. Actuellement, il s'occupe de nous. Il s'occupe des siens sur la terre, c'est ce que nous a montré l'Épître aux Hébreux, qu'il s'en occupe comme Aaron le faisait en figure. C'est-à-dire, il s'occupe d'êtres qui sont encore sur la terre, infirmes, pauvres, chétifs, qui ont besoin à la fois de direction, d'encouragement, de force, de ressources, continuellement mises à leur disposition, parce que il chemine à travers le désert. Il chemine en étranger allant vers la patrie céleste. Mais alors, sera réalisé ce qui est présenté ici. Ce que Dieu avait juré avec serment. Il ne se repentira point. Non seulement il a juré, mais il a juré par lui-même à l'égard de la bénédiction future, dans ce qu'il a dit à Abraham, et ici il est souligné, il ne se repentira point. Que l'Éternel ait juré, cela n'est pas dit souvent dans l'Écriture, nous l'avons dans ce psaume, nous l'avons en Genèse 22, je le rappelais tout à l'heure, à l'égard de la confirmation et du couronnement des promesses faites à Abraham après la résurrection en figure d'Isaac. Et cela est rappelé dans l'Épître aux Hébreux. Nous trouverions encore l'Éternel jurant au roi établi selon la grâce de Dieu, type de Christ, roi triomphant et roi de justice et de grâce, c'est-à-dire David, établi en Sion, et on trouverait dans le psaume 89, à deux reprises, sauf erreur, la mention que l'Éternel a juré à David. Il y aura ta descendance sur ton trône, je garderai mon alliance. Mais ici, c'est à l'égard de cette sacrificature. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre Melchisédek. Tu es. Expression de la divinité, sans doute. Dans l'Épître aux Hébreux, cela est rapproché du « Tu es mon fils, moi je t'ai aujourd'hui engendré ». Mais la fonction et la dignité qui sont ici présentées, celles de sacrificateurs sont l'ordre Melchizedek, c'est une chose qui est éternelle dans la pensée de Dieu, et s'appliquant à quelqu'un qui était sur cette terre, le Fils de Dieu, Dieu manifesté en chair, et dans ce sens, n'ayant ni commencement ni fin, sans généalogie, par contraste avec la sacrificature d'Aaron, c'est tout de même quelque chose qui a commencé un jour. Cela lui a été dit de façon effective ici, cela est annoncé, cela est promis, cela lui a été dit au moment où, selon que cela nous a été présenté hier soir, Christ Jésus est venu, s'est présenté à l'entrée des lieux saints, des lieux célestes, et a été accueilli, salué par Dieu, par cette déclaration qui était inscrite dans la prophétie, tu es sacrificateur pour l'éternité. Il est venu et a été salué ainsi. Et s'il a été salué à ce moment, c'est qu'il était devenu cela. Devenu cela. Étant devenu sacrificateur, cela nous est dit à plusieurs reprises, à trois reprises, je crois, dans l'Épître aux Hébreux, il est devenu avec serment. Il est devenu sacrificateur. Sa sacrificature n'a jamais commencé. Il n'y avait jamais eu, soit en figure, chapitre 15, 14 de la Genèse, mais jusque-là, de sacrificature semblable. Elle commencera, et chers amis, elle n'aura pas de fin. Elle n'aura pas de fin. Et tu es sacrificateur à toujours, selon l'ordre Melchizedek. Il régnera, et il sera l'intermédiaire béni entre la terre et le ciel, entre la terre bénie et Dieu lui-même, pendant tout ce bienheureux règne millénaire. Mais celui-ci prendra fin. Mais que nous est-il dit dans le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens? C'est que à la fin, il remettra le royaume à son Père, afin que Dieu soit tout en tous. Et nous avons ainsi ce prolongement jusque dans l'éternité d'une sacrificature qui a eu ce bienheureux, qui aura ce bienheureux et glorieux commencement. Et n'est-ce pas une grande grâce qui nous est accordée, que nous puissions déjà avoir affaire à une telle personne? Nous serons avec lui quand il règnera, et nous le contemplons déjà tel qu'il sera, en attendant de lui être semblable. Est-ce que cela ne nous parle pas de la dignité que la grâce de Dieu attache à notre condition sur la terre? Et est-ce que cela n'est pas propre, encore une fois, à nous détacher d'un monde qui ne veut rien savoir, d'un Christ glorifié dans le présent, et qui se raille lorsqu'on lui parle d'un royaume de Christ à venir, ou d'une éternité où Dieu sera tout en tous? Et puis, cette même personne nous est présentée ensuite dans les versets 5 et 6, sous ce caractère du vainqueur détruisant les ennemis, les derniers ennemis terrestres, couronnant tout ce qu'il aura fait déjà pour la délivrance du peuple, car il est présenté ici étant déjà intervenu pour délivrer le résidu, mais mettant alors le couronnement, le terme à cette délivrance, car il y aura des ennemis, même lorsque le royaume aura été établi en Sion et que le résidu se réjouira avec le Messie. Il y aura encore des épreuves, il y aura encore un grand ennemi à vaincre. Prophétie de Daniel particulièrement, nous apprendrait quel est cet ennemi, l'Assyrien. Mais peu importe le détail des événements, n'y a-t-il pas une très grande majesté et une impression de puissance qui se dégage des deux versets qui suivent. Le Seigneur, à ta droite, brisera les rois au jour de sa colère. Il jugera parmi les nations. Il remplira tout de corps morts. Il brisera le chef d'un grand pays. Aucun ennemi ne subsistera. Il y a des passages saisissants dans les prophètes, dans en fait, les chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel, par exemple, sur cette destruction du dernier grand ennemi sur la terre. Mais l'expression sur laquelle j'aimerais nous arrêter un très court instant, c'est celle-ci. Le Seigneur à ta droite brisera les rois au jour de sa colère. Ah, il y a une colère qui viendra sur ceux qui auront refusé et refuseront de reconnaître le Messie, le roi, Dieu dans la personne de Jésus. La puissance et la domination divine exercée par lui. Il y a une colère qui ne sera qu'une des manifestations de la colère de Dieu qui reste révélée du ciel contre toute iniquité, contre toute impiété, contre tout ce qui s'élève contre Dieu, contre tous ceux qui, dans quelque temps que ce soit, auront refusé la parole de Dieu et se seront dressés contre la volonté de Dieu et auront voulu aller leur chemin comme si Dieu n'existait pas ou comme si Dieu n'avait pas parlé. Les incrédules d'aujourd'hui comme les incrédules de plus tard. Et celui qui aura, à ce moment-là comme à d'autres, à ce moment-là, quant au jugement guerrier, au jugement des vivants sur la terre, comme beaucoup plus tard, par-delà les temps du règne, quand le grand trône blanc se dressera dans le ciel, c'est une figure, mais elle nous parle de ce jugement final qui appartiendra toujours à la même personne, Jésus, le juge, exercera la colère de Dieu. C'est une chose sérieuse, c'est une chose à laquelle nous désirons une fois de plus rendre attentifs ceux qui ne seraient pas encore en règle avec Dieu. En psaume 2, qui nous parle précisément des droits du Messie, et du moment où ils seront reconnus, il est dit à la fin, « Maintenant, ô roi, soyez intelligents, vous juges de la terre, recevez instruction, baisez le fils avant qu'il ne s'irrite. » Avant qu'il ne s'irrite, avant que vous ne périssiez dans le chemin, quand sa colère s'embrasera tant soit peu. Bienheureux tous ceux qui se confient en lui. Est-ce que nous sommes tous à l'abri de la colère? Est-ce que nous nous confions en celui qui seul nous garantit d'une colère qui est la colère de Dieu, n'est-ce pas, au jour de sa colère? Et c'est lui qui l'exercera. Mais alors ici, il y a une expression bien frappante, c'est celle-ci. Le Seigneur à ta droite. Et l'Éternel qui lui avait dit, assieds-toi à ma droite dans le ciel. Il est présentement à la droite de Dieu. sur le trône du Père, de son Père, comme il le dit en Apocalypse 3, sur le trône de Dieu, comme il nous est présenté dans les Hébreux. Et il s'assiera à ce moment-là sur son trône, à lui. Mais ici, dans cette lutte terminale et triomphante, le couronnement toute l'œuvre de jugement qui aura lieu à ce moment-là pour la purification de la terre, le Seigneur est à sa droite. La force, c'est la force divine, la puissance, c'est la puissance divine. Celui qui exécute la volonté de Dieu et à la domination de la part de Dieu, la puissance divine, c'est toujours cet homme, Jésus, glorifié, couronné des gloires sur sa tête. Il y a plusieurs diadèmes, mais c'est celui qui est sorti du ciel, vous est présenté en figure dans Apocalypse 19, n'est-ce pas, avec ce nom mystérieux que nul ne connaît, ce nom qui est le nom sous lequel Dieu le connaît, lui, l'homme qui a répondu entièrement à sa pensée, mais qui est glorifié en lui. Il porte un nom écrit que nul ne connaît que lui seul. Et par ailleurs, son nom s'appelle la parole de Dieu. Il exécute la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Mais alors, le Seigneur est à sa droite. Et la puissance marche avec lui. Et cela qui sera le caractère donc de ces temps d'établissement du royaume terrestre, lorsque la parenthèse de l'Église sera fermée. Cela aussi est une caractéristique de ces temps. Dieu se tenant à la droite de celui qui a reçu la verge de la puissance. Et cela ramène alors la pensée du fidèle, et cela ramène notre pensée et notre esprit à ce temps, non plus le temps futur que nous venons d'évoquer, ou plutôt que la parole de Dieu vient d'évoquer devant nous, vers le temps passé, vers ce qui a précédé l'ouverture de cette parenthèse, ce qui a précédé l'ascension du Seigneur Jésus, la résurrection, la mort, et en deçà de la mort, toute la vie d'humiliation, de souffrance, de douleur, de celui qui a été sur la terre, l'homme, selon le conseil de Dieu, Jésus. Et le même esprit prophétique qui a parlé dans les versets précédents, soit lui-même, soit mettant ses paroles à l'avance dans la bouche du résidu, le même esprit prophétique attache maintenant une intention toute particulière à ce qui est exprimé à la fin de ce psaume. Il boira du torrent dans le chemin, c'est pourquoi il lèvera haut la tête. Il vient d'être présenté comme celui qui lèvera haut la tête. Après avoir été caché, attendant avec toute la patience divine et s'en remettant à la sagesse divine quant au moment où il se lèverait, il peut maintenant, il lèvera la tête. Mais celui qui lèvera ainsi haut la tête, cette tête sur laquelle il y aura plusieurs diadèmes, cette tête couronnée d'orphin, comme cela nous a été rappelé hier encore, a été ici-bas le pauvre, l'affligé, l'homme de douleur. Il a été celui qui a souffert à cause de la justice de Dieu, celui qui a connu la contradiction des pécheurs contre lui-même, parce qu'il ne faisait que la volonté de celui qui l'avait envoyé. Il a été ici-bas, lui, le vrai serviteur de Dieu, au lieu d'être glorifié comme il le sera alors dans l'avenir. Nous pensons tous ici, je pense, à la fin du chapitre 52 d'Ésaïe et au début du chapitre 53 de ce prophète. Le même qui sera exalté et élevé, mon serviteur agira sagement, il sera exalté et élevé et placé très haut. C'est le même qui, lors de sa première venue, lorsqu'il est venu Jésus sur cette terre, homme parmi les hommes, participant au sang et à la chair, vrai serviteur de Dieu, il a été à cause de cela le pauvre. Comme beaucoup ont été stupéfaits en te voyant, tellement son visage était défait, plus que celui d'aucun homme, et sa forme plus que celle d'aucun fils d'homme. Ainsi, il fera tressaillir d'étonnement beaucoup de nations. Des rois fermeront leur bouche en le voyant, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils considéreront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Qui a cru à ce que nous avons fait entendre? Et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Question posée est devant Israël avant l'avenue de celui qui est ici annoncé. Question qui reste posée maintenant à quiconque entend la parole concernant une telle personne. Qui a cru? Alors il montera devant lui comme un rejeton, comme une racine sortant d'une terre aride. Il n'a ni forme ni éclat. Quand nous le voyons, il n'y a point d'apparence en lui pour nous le faire désirer. Il est méprisé et délaissé des hommes, homme de douleur, et sachant ce que c'est que la langueur, et comme quelqu'un de qui on cache sa face, il est méprisé, et nous n'avons eu pour lui aucune estime. Sans aucun doute, c'est cette position et cette condition de Jésus ici-bas qui se trouve résumée ici en un nombre de phrases caractéristiques. Il boira du torrent dans le chemin de l'homme de douleur, le chemin de Jésus souffrant sur cette terre, méprisé, connaissant l'opprobre, souffrant dans son cœur, souffrant de toute manière, jusqu'au moment où les souffrances suprêmes lui seront infligées par les hommes. Mais couronnement de tout cela, les souffrances de la part de Dieu pour notre délivrance. Nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu, affligé, mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités, le châtiment de notre paix était sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Cela, ce sont les souffrances de notre substitut, prenant nos péchés sur lui. Mais il y a eu tout le chemin de celui qui n'avait pour rafraîchir son cœur que le peu d'eau que de temps à autre, lorsqu'il y avait quelque eau dans le torrent qui passait près de son chemin, il pouvait puiser selon que la bonté de son Père lui donnait de le faire. Elles sont rares dans les évangiles, les occasions où nous le voyons s'abreuver de la sorte, s'interrompant pour ainsi dire dans ce chemin d'abnégation, de dévouement, d'obéissance, de souffrance, pour prendre un peu de ce rafraîchissement béni. Quand la Samaritaine était, voyez peu à peu son cœur s'ouvrir, il pouvait boire. Mais quand une Marie de Béthanie se tenait à ses pieds pour écouter sa parole, choisissant la bonne part, il y avait du rafraîchissement pour son âme, et il y en a eu quelques occasions de la sorte, mais sur la croix, il ne devait plus y en avoir. Dans ma soif, qui m'ont abreuvé de vinaigre, j'ai soif. Il a bu du torrent dans le chemin. Mais il avait alors, et elle m'a rappelé cela en terminant, souligné cela en terminant, il avait alors, et dès ce moment-là, à sa droite, celui qu'il aura plus tard, au jour de sa puissance, de son triomphe, de son combat triomphant. Il avait à sa droite celui dont ses délices étaient de faire la volonté. Nous lisons dans le psaume 14, qui nous, 16, qui nous présente ce serviteur parfait. Il n'y a pas un mot de, non seulement de découragement, il n'y en a pas eu chez Jésus, mais d'abattement, de fatigue, de cœur se fondant, comme on en trouve bien des expressions dans les psaumes et dans les évangiles. Mais il y a uniquement le fait que parce qu'il s'est toujours proposé l'Éternel devant lui, il y a des plaisirs, il y a des plaisirs pour lui. Il a trouvé, il a la bonne portion, il a la communion avec Dieu son Père, avec le Dieu qu'il avait envoyé. Aussi il peut dire, parce qu'il est à ma droite, psaume 16, je ne serai pas ébranlé. Il a été à la droite du serviteur parfait. Et si nous lisons le dernier verset du psaume précédent, celui dont nous nous occupons, le dernier verset du psaume 109, et qui nous présente le pauvre souffrant au milieu des ennemis, souffrant de la part du méchant. Et il y a là en particulier une vue prophétique de Judas, à n'en pas douter, mais le dernier verset nous parle de ce pauvre à la droite duquel Dieu, l'Éternel, s'est tenu. Il s'est tenu à la droite du pauvre pour le sauver de ceux qui jugeaient son âme. Le serviteur opprimé et maltraité. Les deux choses nous sont présentées en Ésaïe, elles nous sont présentées ici dans le psaume 16, dans le psaume 109, séparés. Mais qu'il est précieux de penser à celui qui trouvait sa joie, sa force, sa consolation de tous les jours dans la présence à sa droite de Dieu lui-même. Eh bien, c'est le même qui veut être avec nous, à notre droite aussi. Présentement, il est à la droite de Dieu, et le psaume 16 auquel je viens de faire allusion se termine, comme nous le savons, en disant « Il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. Tu m'as fait connaître le chemin de la vie. Ta face est un rassasiement de joie. Il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. Il jouit déjà à la droite de Dieu où il est présentement, et de ses plaisirs, de cette joie infinie du ciel. C'était la joie qui était devant lui et à cause de laquelle il pouvait mépriser la honte, endurer la croix. Et il est ainsi pour nous la force, la consolation, le secret, la source de cette piété à laquelle nous sommes conviés, parce qu'il veut être ainsi à notre droite. Et il nous appelle dès maintenant aussi à jouir par la foi de ces bonheurs du ciel, de ces bénédictions spirituelles qui sont en lui. Est-ce que nous ne voulons pas goûter de tout cela? L'avoir devant nous tel qu'il est dans la gloire, tel qu'il sera bientôt manifesté. C'est ce que l'apôtre Paul avait devant lui. C'était le secret de sa force, chapitre 3 des Philippiens. Et c'était le but vers lequel il courait. Christ présentement dans la gloire. Et Christ attendu comme sauveur. On sait deux choses dans ce chapitre. Comme c'est là le secret pour suivre, imiter celui qui, au chapitre 2 de la même épître, cela nous était rappelé et il y a peu de temps, et ici même, et nous sommes heureux d'y revenir ensemble. Il est le modèle qui nous est présenté et que nous ne pourrions suivre en aucune manière si nous ne le connaissions à la fois comme notre sauveur, comme l'objet de notre contemplation dans le ciel et comme l'espérance de notre âme. Précieux Sauveur, oh que nous désirions le connaître mieux dans le sentier qu'il a suivi sur cette terre. Notre part présente ici-bas ne peut pas être autre que la part que lui y a connue, qui lui a été assignée ici-bas. Son rejet, c'est son opprobre, nous osons à peine parler de ces choses, car nous y prenons une si faible part, mais pourtant, c'est son humiliation, ce sont ses souffrances, c'est son opprobre qui devrait être nos sujets de gloire ici-bas. C'est là notre part. En attendant, alors, et si peu que nos cœurs le connaissent, ne sommes-nous pas heureux d'y penser, qu'il nous prenne avec lui pour partager à jamais la gloire qui est la sienne, le bonheur de celui qui peut dire, en parlant de celui dont il avait toujours fait la volonté, il y a des plaisirs à ta droite pour toujours.